Chers amis, nous allons ouvrir nos Bibles et je vous encourage à le faire avec moi. Donc, dans la première épître de Pierre, vers la fin du Nouveau Testament, première épître de Pierre, au chapitre 5, 1 Pierre, chapitre 5, où nous lisons un passage déjà entrevu mercredi soir. Il s'agit donc dans 1 Pierre 5 des 9 premiers versets. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Faites paître le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain honteux, mais avec ardeur, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant et devenant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne inflétrissable de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis, subordonnés aux anciens. Et tous dans vos rapports mutuels, continuez à boutonner sur vous le vêtement de l'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment fixé. Et déchargez-vous continuellement sur lui de tous vos soucis, car lui-même se soucie de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Dans notre premier temps de rendez-vous autour des Écritures mercredi soir, nous avons commencé à considérer ce passage consacré en particulier au rapport entre les anciens institués, choisis, établis par Dieu dans l'Église locale et les membres de la communauté appelés dans ce texte plus jeunes. Et puis au-delà de ces rapports, les rapports des croyants les uns avec les autres, puisque ce texte le dit dans la deuxième partie du verset 5, et tous dans vos rapports mutuels. Revêtez-vous continuellement d'humilité. Nous allons donc aller plus loin dans notre réflexion. Nous nous arrêterons en cours de route parce que le thème est généreux et ce passage mérite de longs développements. J'aimerais simplement souligner aussi que notre enseignement de cette fin de matinée s'inscrit dans la conclusion d'un effort de réflexion, de partage, de prière, qui n'a pas eu lieu seulement mercredi soir, mais qui s'est prolongée tout d'abord dans une première rencontre avec le conseil d'anciens jeudi soir, où nous avons largement travaillé, soufflé, peiné, mais dans la joie et dans la paix de Dieu pendant 3 heures au moins. Les aiguilles étaient passées sur le vendredi, à l'heure où nous nous séparions, et puis, semble-t-il, comme nous nous étions tellement plus ensemble, ben hier soir, nous avons recommencé en y associant les diacres, et l'aiguille aussi était passée du côté du dimanche lorsque nous nous sommes séparés. C'est donc aussi un prolongement et une conclusion provisoire à cet effort, cette emphase mise pendant quelques jours sur ce thème tellement primordial qu'est celui de la conduite de l'Église locale par son équipe de bergers selon le cœur de Dieu. J'exhorte donc les anciens qui sont parmi vous, moi, co-ancien, dit le texte, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Nous nous sommes essentiellement, après une longue introduction sur l'autorité directe, autorité de Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, autorité de la parole, des Écritures, puis autorité déléguée, autorité indirecte dans les différentes sphères évoquées dans les Écritures, sphère sociale, dans le monde, face à l'institution dans notre société, autorité dans la sphère du travail, de la vie professionnelle, autorité dans la sphère familiale et conjugale plus particulièrement, et enfin autorité et subordination dans l'Église. Nous avons essentiellement souligné, après cette longue préparation, que cette fonction des anciens était une fonction s'inscrivant toujours dans les Écritures, dans le cadre de la collégialité, l'assemblée des anciens, comme dit 1 Timothée chapitre 4, verset 14. Nous allons donc plus loin, et Pierre précise qu'il est témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Bien sûr, lui était témoin des souffrances de Christ d'une manière absolument exclusive, au même titre que les apôtres qui ont été au plan humain fondateurs en quelque sorte, sous l'autorité du Seigneur, chef de l'Église. Ils ont été fondateurs de l'Église et aussi ce sont eux qui nous ont légué cet héritage infiniment précieux qu'est le texte du Nouveau Testament tel que nous l'avons sous les yeux. Donc Pierre était de cela. Il a été le témoin visuel de la mort de Christ sur la croix, de ses souffrances, souffrances expiatoires. Les anciens, aujourd'hui, sont aussi les témoins des souffrances de Jésus-Christ, par cette révélation du Saint-Esprit à leur cœur, qui les a fait ployer le cœur et plier le genou au pied de la croix. Et désormais, ils annoncent cette prédication de la croix, folie aux yeux des hommes, mais sagesse de Dieu pour le salut du monde, ça c'est pour le présent. Et en même temps, ils communient déjà par la foi à cette espérance de la gloire, ce moment où notre rédemption sera totale, entière, car nous ne sommes sauvés qu'en espérance. Nous sommes dans des corps qui nous ont fait souffrir pendant cette semaine, qui diminuent, qui penchent vers la terre. Mais nous savons qu'un jour, nous aurons des corps de résurrection et nous vivrons dans le face-à-face pour l'éternité. Et nous pouvons être les témoins, aujourd'hui et maintenant, des souffrances de Christ, communier aux souffrances de Christ même, parce que nous sommes portés par cette perspective qui se rapproche de manière extraordinaire. Je sais que très bientôt, peut-être tout à l'heure, je serai enfin dans la présence de celui qui m'a sauvé. Et je le serai pour ne plus jamais en sortir. Témoin des souffrances de Christ et communiant de la gloire qui doit être manifestée pour nous. Ce sont les anciens qui donnent l'exemple dans ce domaine. C'est là les deux pôles du programme de leur piété personnelle et collégiale. Faites paître le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. L'un des mots clés de notre culte tout à l'heure était précisément le mot berger. Et je bénis Dieu de ce qui nous est conduit à la fois dans une des lectures d'introduction et ensuite dans les moments de prière et d'adoration à orienter notre pensée vers ce thème. Les bergers du troupeau. Et il est précisé, donc, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Et nous avons curieusement ici, dans cette petite locution qui ne figure pas dans tous les manuscrits, mais ça n'a aucune importance, nous avons un mot qui est de la famille d'un autre mot qui désigne les anciens. Nous avons jusqu'à présent, dans notre réflexion du texte, un premier mot qui désigne les conducteurs de l'Église, c'est le mot ancien, que nous avons expliqué mercredi soir. Nous venons d'en découvrir un deuxième qui lui est équivalent, c'est le mot berger, puisque les anciens ont pour vocation de faire paître le troupeau de Dieu. Et puis nous avons un troisième mot, encore équivalent, qui est directement entendu dans cette petite locution qui est sous votre garde, puisque cette petite locution, c'est un seul mot dans le texte grec, et que ce mot fait partie de la famille du mot évêque. Et vous le savez, l'évêque, l'épiscope, pour reprendre le mot grec, c'est un mot qui, dans les Écritures, ne désigne pas une sorte de patron d'un certain nombre de prêtres, de ceux qui les aident, et d'église, entre guillemets, d'un certain secteur qu'on appelle un diocèse. L'évêque n'est pas dans les Écritures le supérieur hiérarchique, le patron d'une partie, en quelque sorte, d'une région ecclésiastique. En réalité, il est, avec ses frères anciens et bergers, celui qui veille sur le troupeau, le surveillant du troupeau. Vous avez dans épiscope quelque chose que vous avez rencontré dans quantité d'autres mots, cinémascope, il est question du regard. L'évêque, l'ancien, le berger, regarde, ouvre les yeux physiques et les yeux du cœur tout grand pour surveiller, pour veiller sur le troupeau, pour percevoir dans leur relation avec le Seigneur, dans leur vigilance, dans leur amour pour les brebis, pour percevoir les besoins les problèmes, les difficultés, les combats, les brebis qui ne sont plus assises sur les bancs, qui se sont peut-être perdues dans la nature. Veillez sur le troupeau. Ancien pasteur, évêque, dans les Écritures, désigne les mêmes personnes. Ce n'est pas le seul passage dans lequel il en est ainsi, puisque vous avez un des plus beaux passages du Nouveau Testament concernant le ministère de Paul dans sa relation avec l'Église. Il s'agit de ce discours d'adieu de Paul aux anciens d'Éphèse, à Milet, dans Acte 20, dans lequel il est dit au verset 28, « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau. » Tout le troupeau. Donc ici, il est sous-entendu, vous êtes des bergers. Ils sont présentés au verset 17 comme les anciens de l'Église. Anciens égale berger. Et la suite du texte le dit, « Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lequel le Saint-Esprit vous a établi épiscope, évêque. » Vous voyez, ici aussi, le schéma est exactement le même. Ancien égale berger égale évêque. L'ancien, c'est la dignité de la fonction. Homme d'expérience, de maturité, de beauté de caractère, également d'aptitude à choisir les pâturages. Ensuite, vous avez l'épiscope, c'est-à-dire la fonction générale de l'ancien. L'ancien, dans sa dignité, est chargé de veiller sur le troupeau, et le détail de cette vigilance et de ces soins de l'épiscope, c'est le ministère de berger. L'ancien est surveillant pour faire paître le troupeau. Et vous remarquez ici dans ce texte que ce n'est pas l'Église locale qui, d'autorité, par un vote démocratique, choisit des anciens. C'est le Saint-Esprit qui choisit, c'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui établit les anciens qui sont déjà en place sous les missionnaires fondateurs d'une église, reconnaissent eux-mêmes, ils vont détecter, ils vont discerner le choix de Dieu, le choix du Saint-Esprit, ils vont se l'approprier en disant « Seigneur, tu nous as montré, ton choix devient le nôtre ». Et l'Église locale est appelée à reconnaître, à approuver le choix de Dieu tel qu'il est présenté par les premiers responsables de l'Église locale. Bien sûr, si ce sont des mauvais responsables, ils peuvent proposer à l'approbation de l'Église locale des bergers en puissance qui n'en sont pas dans le plan de Dieu. D'où l'importance de vivre près du Seigneur, de grandir en maturité, de veiller à rester fidèle à la doctrine qui est présente dans les Écritures sur ce sujet. C'était une des raisons de nos rencontres durant cette semaine. Le titre d'ancien, je le dis aussi au passage, était utilisé essentiellement dans les églises formées de convertis d'origine juive. Pour un juif converti à Jésus-Christ, le terme ancien et le fonctionnement d'une collégialité d'anciens n'étaient pas problématiques, parce qu'il y avait des anciens à divers degrés, notamment pour conduire la vie de la synagogue. Il y avait même dans ce conseil d'anciens de la synagogue un chef de la synagogue, c'est-à-dire un ancien parmi les anciens qui avait une fonction de direction et de coordination. Donc partout où la dominante dans la composition d'une église locale était d'origine juive, c'est-à-dire composée de judéo-chrétiens, le terme ancien était le terme clé parce que tout le monde pouvait le comprendre. C'est le cas dans l'église mère à Jérusalem, qui était essentiellement composée de juifs convertis à Jésus-Christ. Par contre, le terme évêque était utilisé dans les églises qui étaient constituées en majorité de convertis qui étaient issus du monde gréco-romain. Tout simplement parce que le terme épiscope était très souvent employé dans le langage courant du monde gréco-romain. Il évoquait toutes sortes de fonctions, par exemple un évêque dans la civilisation romaine, gréco-romaine, supervisait une colonie romaine. Il avait des fonctions de surveillance, voire d'administration même, très très étendues dans le cadre des cités gréco-romaines. Donc lorsque des églises se sont développées dans le monde gréco-romain en dehors d'Israël, les leaders, Paul et d'autres, dans leur ministère, lorsqu'ils ont été conduits à discerner qui devait être ancien, ont utilisé non pas d'abord le mot ancien, puisque c'était un mot beaucoup mieux connu du monde juif, mais ils ont utilisé le mot évêque, parce que n'importe quel converti d'origine païenne pouvait comprendre ce à quoi ça pouvait servir aussi dans le cadre de l'Église de Jésus-Christ. Alors résumons-nous, le terme ancien souligne la dignité de la fonction. Souvenez-vous que mercredi nous avons dit qu'il s'agissait des vieux, non pas avec cette connotation péjorative utilisée aujourd'hui dans le refus de l'expérience et de l'autorité des aînés, mais vieux dans le sens encore utilisé aujourd'hui, par exemple sur le continent africain, où les personnes âgées sont celles qui détiennent tout un patrimoine d'expérience et d'histoire qu'elles lèguent à une jeune génération pour l'aider à aller plus loin. Le terme évêque souligne la fonction surveillant, le terme berger ou pasteur dans le sens littéral décrit donc le travail accompli à l'égard des brebis. Vous avez un quatrième terme qui figure à diverses reprises dans le Nouveau Testament, assez généreusement d'ailleurs, mais en particulier dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 13, dans trois versets, 7, 17 et 24, c'est le terme conducteur. Avec l'idée, c'est ce que veut dire le mot dans le texte original, de celui qui est donc placé devant, mais qui avance devant en frayant un chemin au troupeau qui le suit. Quatre termes: ancien, dignité de l'office, évêque, la fonction, berger, le travail accompli, conducteur, la position du guide qui se tient devant et qui ouvre un chemin à chacune des brebis au sein du troupeau. Vous retrouvez cette pensée, mais nous n'allons pas le voir maintenant, dans plusieurs passages très importants sur le profil, les conditions exigées pour pouvoir prétendre à cette charge dans les épîtres pastorales, 1 Timothée chapitre 3 verset 1 à 7 et Tite 1 verset 5 à 9. Peut-être simplement ici quelques mots, nous aurions pu consacrer beaucoup de temps à évoquer le berger, l'équipe des bergers, puisque la Bible est généreuse sur cette tâche de conduire le troupeau vers les meilleurs pâturages. D'ailleurs, ici, entre parenthèses, j'aimerais revenir sur ce verset 9 de Jean 10 qui a été brièvement commenté par notre frère tout à l'heure parce qu'il est absolument extraordinaire. Jésus vient de se présenter comme la porte des brebis. Et vous savez que Jésus-Christ est devenu la porte des brebis par sa mort sur la croix. C'est-à-dire que cette porte des brebis a la forme d'une croix. Et en fait, cette porte des brebis, elle est assez curieuse, parce qu'elle est au centre de la bergerie. On entre et on sort, et on entre et on sort. On entre et on sort, c'est-à-dire que je dois en permanence, en tant que brebis, passer par l'axe de la croix. C'est de part et d'autre de la croix, dans ma vie de disciple de Jésus-Christ, que je vais trouver en permanence les bons pâturages. En permanence, en Christ, à partir de lui, dans mon union personnelle avec lui, je passe d'un côté et de l'autre de la croix. Parce qu'autour de la croix se trouvent les plus beaux pâturages. Et c'est là une des fonctions essentielles des anciens, de veiller à ce qu'une église locale soit toujours centrée sur la porte, de manière à ce que les brebis aillent toujours par la porte, de part et d'autre, vers les meilleurs pâturages. Dès qu'on s'éloigne de la porte, on quitte les meilleurs pâturages, ceux qui sont arrosés en quelque sorte, et c'est un symbole, par le sang de Jésus-Christ qui les rend féconds. Le berger est responsable du bien-être total de ses brebis. Il doit les garder des loups redoutables que sont les faux docteurs. L'apôtre Paul le dira aux anciens d'Éphèse à Milet. Il leur dira premièrement, prenez garde à vous-même, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Et puis, veillez parce que, d'une part, il y a des loups qui vont tenter de s'introduire dans le troupeau. Il va y avoir des dangers venant du dehors, mais il va aussi y avoir des dangers venant du dedans. Il va s'élever du milieu de vous, des faux docteurs, c'est-à-dire des personnes que pendant un certain temps vous aurez peut-être confondues avec le troupeau en pensant que ce sont de vraies brebis et qui, avec le temps, vont se révéler tout à fait autre chose. D'où la nécessité de vigilance, d'un enseignement solide. Paul le dira, pendant 3 années, nuit et jour, avec larmes, je vous ai annoncé tout le conseil, tout le dessein de Dieu. Je n'ai pas ménagé mes efforts, je n'ai pas ménagé ma peine pour que les églises soient équipées, qu'elles soient solides. Alors maintenant que vous prenez le relais, soyez vigilant vis-à-vis de vous-même et soyez vigilant dans votre surveillance de l'Église de Jésus-Christ. Alors vous avez dans le psaume 23 un programme merveilleux qui doit inspirer le conseil d'anciens, les bergers dans l'Église. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il répond donc à mes besoins spirituels. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Le bon berger me procure la tranquillité et le repos. Il me dirige près des eaux paisibles. Il s'occupe de ma soif spirituelle. Il restaure mon âme, il me relève quand je suis faible et découragé. Il me conduit dans les sentiers de la justice, il me dirige dans la voie de la justice divine. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Le bon berger demeure auprès de moi dans le danger et dans les difficultés. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Ils me redressent d'une part avec amour lorsque je m'éloigne de la voie de Dieu. Ils m'encouragent, me réconfortent lorsque je vis dans la crainte, dans la peur. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Le bon berger pourvoit ma nourriture spirituelle dans un monde qui se délecte de connaissances terrestres. Tu oins d'huile ma tête. Le bon berger apporte la guérison à mes douleurs et à mes blessures. Il est la source, le modèle, le moteur de cette vocation des bergers dans l'église locale. Un ancien fait paître et dirige ceux qui sont sous sa garde en répondant à leurs besoins spirituels, en leur procurant la tranquillité et le repos, en s'occupant de leur soif spirituelle, en les relevant lorsqu'ils se sentent faibles et découragés, en les dirigeant dans la voie de Dieu, en demeurant auprès d'eux dans les difficultés et le danger, en les redressant avec amour lorsqu'ils s'égarent, en pourvoyant à leur nourriture spirituelle, en apportant la guérison de leurs douleurs et de leurs blessures. C'est ce que dira Jérémie 23 et Ézéchiel 34, et cette parabole tellement touchante de la brebis perdue dans le début de l'Évangile selon Luc au chapitre 15. Un programme impressionnant qui devrait faire plier le genou et plier le cœur de toute une communauté pour qu'elle intercède d'une manière toute particulière pour ce service tellement beau et exigeant qu'est celui du conseil d'anciens. Ensuite, nous arrivons aux qualités des anciens telles qu'elles sont indiquées à partir de ce verset 2. PC, le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Les anciens ne sont pas des fonctionnaires. Loin de leur cœur, le sentiment de routine, d'ennui, mais aussi le légalisme qui traque, la froideur, les gémissements. Et hélas, il peut y avoir des gémissements qui devraient faire réfléchir le troupeau. Hébreux 13, verset 7. Obéissez à vos conducteurs, et nous avons là un mot tout à fait particulier, laissez-vous convaincre, laissez-vous persuader, ne vous rebellez pas, ne soyez pas des brebis indociles, obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence, ayez pour eux de la déférence. C'est intéressant parce qu'ici nous avons un mot qui appartient encore à la famille de l'obéissance, c'est d'ailleurs le mot principal. On pourrait le traduire précisément là encore, soyez docile, car il veille sur vos âmes. Il veille sur vos âmes, voilà l'épiscope qui refait surface, dont ils devront rendre compte. Et c'est là la définition du responsable. Le responsable dans une église locale, c'est celui qui accepte aussi de répondre de la manière dont il gère la tâche que Dieu lui a confié. Chaque ancien sait qu'il aura des comptes à rendre, qu'il aura à répondre de la manière dont il aura exercé sa charge de berger. Qu'il en soit ainsi, afin qu'il le fasse avec joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Parce que si les anciens se mettent à gémir, tellement la tâche est ingrate, eh bien ils vont commencer à dérailler. Ils vont avoir le même problème que Moïse a eu lorsqu'il était usé par les récriminations permanentes d'Israël au désert et que, par incrédulité, dans l'amertume, dans l'aigreur du cœur, il n'a pas obéi simplement avec foi et humilité à l'ordre de Dieu. Et au lieu de parler au rocher une fois, il l'a frappé avec nervosité et incrédulité deux fois, violant ainsi, d'ailleurs, un symbolisme des Écritures. Christ n'a pas été frappé deux fois. Il a été frappé une fois. Et cela a été suffisant pour que l'eau de la vie jaillisse et conduise ceux qui viennent y boire à la vie éternelle. Donc qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Pas de fonctionnarisme. Non par contrainte, volontairement, selon Dieu, de bon gré. Les anciens servent Dieu. Et ils sont appelés à servir Dieu comme Dieu le désire. Selon Dieu veut dire simplement comme Dieu le désire. Ni pour un gain sordide. Avec aucune arrière-pensée d'en tirer des bénéfices financiers. Complètement éloignés dans leur cœur de tout esprit de cupidité, d'une sorte d'âpreté au gain, en espérant pouvoir d'une manière ou d'une autre soutirer quoi que ce soit comme avantage matériel de la part de l'Église locale. Mais de bon cœur, parce qu'ils ne sont pas des mercenaires. Jésus, le bon berger, a évoqué les mercenaires qui voient les loups s'approcher du troupeau et qui prennent la poudre d'escampette parce qu'ils sont beaucoup plus intéressés par le salaire que par la protection du troupeau. L'ancien dans l'église locale n'est pas un mercenaire. Son service est désintéressé, il sert avec empressement, dévouement, de bon cœur, c'est-à-dire avec enthousiasme. Avec enthousiasme, Dieu voudrait qu'une équipe d'anciens soit une équipe enthousiaste, dans le sens étymologique du terme, puisque dans le monde grec essentiellement, et dans les relations de l'homme avec l'idole païenne, être enthousiaste, c'était porter les divinités païennes dans son cœur. Vous avez le mot tout, T-H-O, qui est une déformation de théos, n'est-ce pas, qui veut dire Dieu dans les Écritures, avoir Dieu en soi. Alors l'ancien, lui, n'a pas une idole dans son cœur, mais par le Saint-Esprit, Christ habite. Et c'est parce que Christ habite, et dans la mesure où il règne dans son cœur, qu'il peut exercer cette charge exigeante mais passionnante avec enthousiasme, le terme d'ailleurs est très fort, avec ardeur aussi. Il ne va pas se contenter de médiocrité, il ne va pas se contenter du SMIG spirituel, du salaire minimum. Non, au plan spirituel, il va vouloir déborder du Seigneur dans son service pour ses frères et sœurs. Non en tyrannisant, littéralement. Non en tyrannisant ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant et en devenant, parce que le terme grec peut se rendre aussi par devenir, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois les modèles, mais ils ne sont pas encore des modèles parfaits, c'est là-haut que ça se passera. Tout en étant des modèles, ils sont des modèles qui deviennent de plus en plus des modèles, eux-mêmes, dans leur relation avec le Seigneur, dans leur relation avec leurs frères et sœurs, sous la conduite du Saint-Esprit, deviennent de plus en plus des modèles du troupeau. Non en tyrannisant, non en dominant, mais avec un sens très négatif. Nous avons plusieurs textes qui vont dans cette direction et qu'il nous faut brièvement parcourir. Matthieu 24, versets 45 à 49, cela va nous donner la tonalité de notre réflexion. Matthieu 24, versets 45 à 49, l'exhortation à la vigilance dans la perspective du retour soudain du Seigneur. Quel est donc, je lis le verset 45 du chapitre 24, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens. Vous avez là déjà tout un enseignement qui est repris dans les épîtres. Vous avez donc un serviteur, littéralement un esclave. Vous avez en tout cas 6, sinon 7 mots grecs qui appartiennent à la hiérarchie des serviteurs. Et ici, c'est le mot qui est sur le barreau de l'échelle tout en bas, qui a donné d'ailleurs son nom à un des bateaux d'opération mobilisation, le doulos. C'est l'esclave. Et ici, c'est le terme qui est utilisé. Et il sera utilisé ensuite au verset 46, « Heureux ce serviteur ». Il sera utilisé au verset 48, si c'est un méchant serviteur. Il sera même utilisé au verset 49, « S'il se met à battre ses compagnons ». En réalité, ici, c'est un mot composé dans lequel figure le mot esclave. S'il se met à battre, c'est co-esclave. C'est-à-dire qu'il se place au même rang que ses frères dans l'Église. Ceux sur lesquels le patron, le maître, l'a établi, sont esclaves comme lui. Ils sont ensemble co-esclaves du Seigneur. Mais vous voyez cette insistance, ce que le Seigneur, le Maître, c'est le mot Seigneur, ce que le Seigneur établit sur sa maison, ce sont des esclaves. Oh, des esclaves, Jésus le dira en s'adressant à ses disciples, qui sont esclaves par amour. Personne ne les y a obligés. Ils préfèrent de loin être les esclaves de ce Seigneur, parce qu'ils savent que c'est un maître absolument exceptionnel. Ils sont comme les esclaves, entre guillemets, en Israël, dans l'ancienne alliance, qui, à la septième année, n'est-ce pas, préféraient se faire ouvrir l'oreille contre le menton de la porte de leur maître, plutôt que de quitter la présence de ce maître qui les avait tellement bien traité. Et c'était une annonce de ce merveilleux esclavage qui peut être le nôtre lorsque nous vivons dans une relation d'amour avec celui qui nous appelle ses amis si nous faisons ce qu'il nous commande. Jean chapitre 15. Donc quel est donc ce serviteur fidèle et prudent que son maître, son seigneur a établi sur ces gens, a établi, c'est le mot qui est utilisé pour parler de l'institution des anciens, même de la cérémonie qui, dans l'Église locale, par l'imposition des mains, fait que l'Église reconnaît officiellement que Dieu a choisi, que Dieu a établi, que Dieu a délégué son autorité à cet homme, à ces hommes qui se présentent de l'Église locale pour que l'imposition des mains, selon les Écritures, leur soit donnée, ceci sans précipitation, disent les Écritures, après avoir testé pour éviter certaines erreurs qui pourraient avoir des conséquences graves. C'est là le mot qui est utilisé, établi sur ces gens pour leur donner la nourriture, ça c'est bien le berger, à leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi, je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Et là nous avons une allusion indirecte à, je dirais, aux fonctions qui attendent les enfants de Dieu quand ils seront dans la présence de Dieu. Et tout ce domaine qu'on appelle celui des récompenses, et dans lequel il y aura des rôles de gouvernement selon certaines paraboles, par exemple la parabole des mines. Voyez, là nous avons en filigrane tout un enseignement en ce qui concerne les effets du tribunal de Christ pour tous les enfants de Dieu, mais aussi d'une manière particulière. Mais verset 48, si c'est un méchant serviteur qui se dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, ses co-serviteurs, ses co-esclaves, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites, et c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quel avertissement à ne pas maltraiter le troupeau. Et c'est ce que Dieu dira par la bouche de Jérémie et d'Ézéchiel aux bergers d'Israël, aux conducteurs d'Israël dans l'ancienne alliance. Vous avez maltraité le troupeau. Vous avez dominé les brebis avec violence et dureté. Et il y a dans Ézéchiel 34 une indignation profonde du berger, du divin berger, qui ensuite annonce en quelque sorte qu'il viendra, lui, et qu'il viendra en Jésus-Christ pour être un vrai berger qui va vraiment s'occuper de tout son cœur avec un amour absolument incommensurable et extrêmement pratique de chacune des brebis, avec la main droite de la bénédiction, mais aussi avec la main gauche du châtiment pour les brebis grasses et vigoureuses, tout simplement parce qu'elles ne font pas d'exercice, parce qu'elles ne travaillent pas pour le Seigneur, parce qu'elles se contentent de vivre une vie d'église locale comme un automobiliste va à la pompe pour chercher l'essence ou le gasoil au prix le plus avantageux, du papier buvard au lieu d'être du stylo qui donne. C'est aussi dans le texte d'Ézéchiel au chapitre 34. Quelqu'un a écrit ceci, la tentation la plus grande pour tout pasteur ancien, c'est qu'un esprit de domination remplace en lui peu à peu l'esprit de service. À cause même de l'influence qu'il exerce, il est difficile à un pasteur de ne pas céder tant soit peu à l'ivresse de l'impression qu'il cause, et de ne pas en profiter pour s'imposer, pour dominer, finalement pour asservir au lieu de libérer, pour s'emparer de l'héritage du Seigneur, faire valoir pour lui-même le talent confié. Que celui auquel il est donné de parler et d'agir avec autorité prenne garde de devenir autoritaire. Vous ne pouvez paître le peuple de Dieu qu'en étant le modèle du troupeau, c'est-à-dire en étant vous-même la brebis la plus obéissante, la plus humble, la plus joyeuse, la plus docile aux paroles du berger d'Israël. Ancien, n'exercez pas un pouvoir autoritaire. Ne soyez pas dans l'église locale des diotrèphes dont il est question dans ce petit billet, la troisième épître de Jean, dans les versets 9 et 10. J'ai écrit quelques mots à l'église. Mais diotrèphes qui aiment à être le premier qui aime le premier rang. Et comme c'est un participe présent dans le grec, ça veut dire qu'il l'aime tout le temps. Du matin au soir et même pendant la nuit, il en rêve, aimant tout le temps le premier rang. Quelqu'un a traduit, c'est une traduction allemande de ce texte, et je l'aime beaucoup, qui aime à jouer le premier violon. Il y a dans certaines églises des anciens qui aiment à jouer les premiers violons. Et à cause de cela, il ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos. Alors je vais traduire directement du texte, en faisant couler des flots de mauvais propos. Autant il cultive du matin au soir et pendant la nuit même ce désir de se maintenir à tout prix au premier rang, autant il vide en permanence par la bouche ce qui remplit son cœur, des flots de mauvais propos s'échappent de son cœur et de ses lèvres. Et non content de cela, il ne reçoit pas les frères. Et ceux qui voudraient le faire, il les empêche et les chasse de l'église. Bien-aimé n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui pratique le bien est de Dieu, celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Nous touchons ici au grand danger de l'autorité. J'aime tellement la mentalité de Paul, l'humilité de Paul. Paul qui, par exemple, lorsque dans l'église de Corinthe, des factions se dressent les unes contre les autres, l'un étant le partisan acharné et aveugle de tel leader, l'autre étant le partisan acharné de tel autre leader, d'autres encore pensant qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des conducteurs et qu'il faut simplement être du parti de Christ parce que c'est la seule manière d'être spirituel, d'autres méprisant l'apôtre Paul lui-même, précisément parce qu'il ne veut pas rouler les mécaniques, et dire du matin au soir, moi, je suis celui qui est autorité. Eh bien, que répond-il l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens au début du chapitre 4 ? Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs, littéralement des économes, des gérants des mystères de Dieu, des serviteurs de Christ. Alors ça, c'est un autre des sept mots grecs qui figurent dans le Nouveau Testament et qui sont rendus par le mot serviteur en français. Nous avons vu le mot doulos, esclave. Ici, nous avons un autre mot qui figure à diverses reprises. Si vous connaissez bien le livre des Actes, vous pensez à l'équipe missionnaire qui a été constituée de Paul et Barnabas, et à laquelle a été tout de suite associé le cousin de Barnabas, qui s'appelait Jean, surnommé Marc, qui allait devenir l'évangéliste que nous connaissons. Eh bien, Jean, surnommé Marc, le cousin de Barnabas, qui était le bleu dans l'équipe, est appelé l'assistant de Paul et Barnabas. C'est ce mot-là. C'est ce mot-là. C'est un mot qui, à l'origine, était employé dans les galères romaines. Et ce mot désignait les rameurs de l'étage le plus bas. Vous savez que dans les galères, vous aviez des étages de rameurs. Et les rameurs qui étaient le plus en danger, c'était bien sûr ceux qui étaient au fond, parce qu'ils avaient beaucoup plus de peine à s'échapper éventuellement, s'il y en avait à un moment donné la possibilité. Donc c'était généralement aussi ceux qui subissaient les plus lourdes condamnations. Et on les appelait serviteurs dans ce sens-là, les rameurs de bas étage. Et puis, peu à peu, le mot est sorti du langage naval et il a commencé à être utilisé pour viser les subordonnés. c'est-à-dire les sous-officiers, les assistants, le personnel de maison, des assistants de médecins, des membres de suite royale, des gardiens de synagogue. C'est un mot que l'on utiliserait aujourd'hui si il vous arrive de suivre les sessions publiques à l'Assemblée nationale avec les questions-réponses. Vous voyez les huissiers hein, avec leur chaîne qui donnent des billets, etc. C'est exactement le mot que l'on utiliserait pour parler de ces personnages. Les huissiers du Parlement, si vous allez chez un médecin dans un cabinet médical et que vous avez affaire à la secrétaire médicale qui vous attend à l'entrée, qui a une certaine formation de base, c'est aussi un mot que vous pouvez utiliser pour l'évoquer. L'assistant, le conseiller, le mousse, le sous-fifre, le subordonné, le garçon de course. Quelle humilité de la part de l'apôtre Paul. Vous vous battez ? Vous opposez Apollos, Paul, Pierre, Jacques. Mais mes amis, vous n'avez pas compris que nous ne sommes que les garçons de course du Seigneur. Vous avez affaire à des garçons de course. Et en tant que garçons de course, nous sommes les gérants de trésors que le Seigneur nous confie, tout comme un magasin de pizza confie de magnifiques pizzas bien chaudes et bien emballées à celui qui va foncer sur sa mobylette pour apporter la pizza aux personnes qui l'ont commandée. C'est son seul rôle. Il ne les a pas fabriquées. Mais ventre à terre, il traverse la ville de Cannes ou l'Aboca pour aller livrer le délicieux repas que le Seigneur a préparé pour ses enfants. Grand danger dans l'exercice de l'autorité. Marc chapitre 10 verset 42. Marc chapitre 10 verset 42. Marc 10 42. Vous connaissez l'intervention ô très humaine de la maman de Jacques et de Jean. Et c'est vrai que les mamans qui aiment leurs enfants ont souvent de grandes ambitions pour leurs enfants. Et donc, elles voulaient que Jacques et Jean aient vraiment une place d'honneur. Et Jésus, je pense avec un immense amour, au verset 42, appela ses disciples et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. » Les tyrannisent. C'est un mot très intéressant. C'est ce mot-là qui est repris dans 1 Pierre 5 que nous sommes en train d'étudier, tyranniser, exactement, commander en maître, tenir le pouvoir bien en main. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre esclave. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Il y a quelque chose d'intéressant dans ce texte. Vous avez le mot « chef ». Ce mot du texte original a donné en français une partie du mot « monarchie ». Le bout de monarchie, « archie », vient de là. Les archônes, les chefs. Dans le Nouveau Testament, il y a un refus de Dieu le Père, de Dieu le Fils, de Dieu le Saint-Esprit, d'utiliser ce mot-là pour évoquer l'exercice de l'autorité dans l'Église et dans le foyer. Pourquoi ? Parce que Jésus savait qu'hélas, quand on est chef, on est tenté par l'abus du pouvoir. Et c'est la raison pour laquelle Quand Jésus est appelé chef de l'Église, ce n'est pas le mot archone qui est utilisé, mais le mot qui a donné céphalée, encéphalite, la tête. Ce qui a une toute autre connotation. Et c'est la même chose pour les relations entre mari et femme. Le mari n'est jamais appelé archone à cause de ce risque de compréhension d'une domination excessive. Mais il est appelé la tête. De la même manière que Jésus est la tête de l'Église, le mari est la tête de sa femme, et en tant que tête de sa femme, il ne lui dit pas « Tu dois m'obéir !» Il lui dit « Je t'aime, je te chéris, je prends soin de toi, comme le Seigneur Jésus prend soin, aime et chérit son Église. » Mes amis, à plusieurs reprises, nous l'avons lu, y compris dans ce verset 2 de 1 Pierre 5, « Paissez ou faites paître le troupeau de Maurice Decker, le troupeau de Dieu. » Et le grand risque de responsable dans l'Église, c'est d'oublier que le troupeau n'est pas leur troupeau. On peut tellement s'identifier au troupeau que premièrement, on n'acceptera jamais de quitter sa charge et qu'il arrivera peut-être un moment où Dieu devra nous mettre dehors. Il est des anciens qui considèrent tellement l'Église locale comme leur Église parce qu'ils y ont sué le sang et l'eau. Ils y ont passé des nuits blanches à se battre. Peut-être qu'ils ont été fondateurs, même. Ils ont été les pionniers. Que quand Dieu leur dit et leur redit à maintes reprises, tu sais, maintenant c'est le moment de te mettre à l'arrière. Parce qu'il y a l'usure. Tu pourras encore partager ton expérience, mais maintenant mets-toi un peu à l'arrière. Tu vas vivre un ministère de prière pour l'Église comme jamais. Tu vas pouvoir encore suggérer, dans certaines situations, tu vas pouvoir aider d'une manière particulière, mais maintenant tu ne peux plus être le berger parce que tu as trop d'arthrose. Hein? Ça nous arrive à tous, à un moment donné. Eh bien, il y a ceux qui ont oublié que le troupeau est le troupeau de Dieu. Ils ont l'impression que si on leur enlevait la responsabilité du troupeau, on leur arracherait le cœur. En permanence, nous nous souvenons en tant que responsables d'Église que le troupeau sur lequel nous sommes établis anciens évêques bergers, c'est le troupeau de Dieu. Il en est souverain. C'est lui qui donne des ordres aux bergers et c'est à eux de se soumettre à ses ordres avec bonheur, quel qu'il soit. Ne nous inspirons pas dans l'Église des modèles d'autorité qui prévalent dans le monde. Et ici, voyez-vous, j'aimerais revenir sur un aspect qui me semble important concernant cette fonction d'autorité. C'est Paul qui le dit dans 2 Corinthiens 10, 8, 9, « Et même si je me glorifiais un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre destruction, je ne saurais en avoir honte afin que je ne paraisse pas vouloir vous intimider par mes lettres. » Alors Paul précise que l'autorité qu'il a reçue de Dieu dans son ministère est pour l'édification et pas pour la destruction. Ça ne veut pas dire qu'il n'arrive pas parfois que l'édification d'une église locale ne commence pas par la destruction. Dieu va confier à Jérémie un ministère prophétique. Dans ce ministère prophétique, il lui donne un mandat en 6 verbes. Sur ces 6 verbes, les 4 premiers verbes sont des verbes de destruction. L'état d'Israël était tellement lamentable qu'il fallait d'abord une discipline d'en haut, un châtiment d'en haut, pour que sur cette base, une reconstruction puisse avoir lieu. Ça, c'est la charge douloureuse de l'exercice de la discipline dans l'église locale. Mais même l'exercice de la discipline dans l'église locale vise l'édification de l'église locale pour qu'elle ne soit pas gangrénée par le péché non confessé et cultivé par l'un ou l'autre de ses membres. Mais bien aimé, les anciens, dit le texte, doivent être et devenir les modèles du troupeau. Devenir les modèles, les exemples. L'autorité des anciens repose sur l'exemple. Moïse a perdu toute son autorité lorsqu'il a voulu arbitrer un conflit entre deux juifs esclaves en Égypte, tout simplement parce que ses deux frères juifs savaient que la veille, ils s'étaient mal conduits. Vous le lirez dans le texte d'Exode 2, 14. Ils ont refusé son autorité. Qu'est-ce que tu veux nous donner des leçons, toi qui es un criminel ? Ensuite, l'autorité repose sur la présence vivante de Dieu dans la vie de l'ancien. Josué a pu exercer son autorité comme successeur de Moïse parce que le peuple d'Israël a constaté que la présence de Dieu était visible dans la vie de Josué. Alors il a dit, d'accord, puisque nous voyons que l'Éternel est avec toi, nous acceptons ton autorité. L'autorité repose sur la soumission. Je pense à cet officier qui envoie ses serviteurs vers Jésus à cause du drame qu'il vit dans sa vie familiale au niveau de son enfant qui se meurt. Et simplement, il dit, moi qui suis soumis à mes supérieurs. Si dans mon rôle, à mon niveau d'autorité, je le dis à l'un de mes subalternes, va, il va, viens, il vient. Mais il m'obéit parce que je suis moi-même soumis à mes supérieurs. Matthieu chapitre 8, verset 9. Et enfin, lorsqu'on abandonne l'Éternel, on perd aussi l'autorité. Et nous savons même qu'hélas, le roi David a perdu toute une partie de son autorité sur la fin de son règne et de sa vie, tout simplement à cause de son péché d'adultère commis avec Bathsheba. Dans sa famille, il n'avait pratiquement plus d'autorité et la rébellion d'Absalom a été une des conséquences tragiques de la perte d'autorité de David, malgré l'intervention du pardon de Dieu. Même quand le pardon de Dieu intervient dans nos vies, une des conséquences qui peut demeurer très longtemps, c'est un affaiblissement de notre autorité dans notre témoignage et dans notre service pour Dieu. Cela devrait nous faire sérieusement réfléchir. Je termine avec cette image et je m'arrêterai là. Le berger, c'est un conducteur. C'est ce que Jésus disait dans Jean au chapitre 10. C'est celui qui marche devant ses brebis. Ça, c'est le berger oriental. Ce n'est pas le berger de nos pays. Si vous voyez un berger en France, il n'est pas devant, il est derrière. Et il envoie ses chiens. Mais en terre d'Israël et dans d'autres pays orientaux, le berger est devant. Il est le modèle. Il conduit. Il fraye un chemin. Alors, dans un autobus de tourisme, dans un de ces pays d'Orient, un guide était en train d'expliquer cela aux touristes installés confortablement dans l'autobus. Et voilà que subitement, il se fait interrompre par l'un des touristes qui lui dit « Écoutez, comment puis-je croire ce que vous êtes en train de nous dire quand vous dites que les bergers précèdent le troupeau ? Regardez dehors. Regardez !» Il y avait un troupeau à quelque distance et il y avait un homme qui était derrière. Alors, dans un premier moment, notre guide est quelque peu gêné, apparemment pris en flagrant délit, mais il dit au chauffeur « Arrêtez le bus, tout de suite !» Et il se précipite ventre à terre jusqu'auprès du troupeau, et puis il revient avec un grand sourire en disant « Écoutez, j'aimerais vous annoncer simplement ceci. Il y avait un troupeau, il y avait bien un homme derrière, mais cet homme, c'était pas le berger, c'était le boucher qui emmenait les bêtes à l'abattoir avec le bâton. » Les anciens ont un choix à faire, hein ? Berger, oui. Devant, oui. Derrière, non. Boucher, non. Alors que Dieu guide les bien-aimés qu'il établit dans cette charge. Et qu'avec eux, en tant que brebis du Seigneur, chaque membre de l'Église est à cœur d'être une brebis qui fait plaisir au divin berger et qui est aussi une occasion d'encouragement pour ce service, cette charge tellement difficile, redoutable par certains côtés, mais aussi absolument passionnante. Je dis souvent que si je devais recommencer ma vie avec Dieu, je dirais aussitôt oui à ce beau ministère, difficile, crucifiant. Il y a bien des nuits blanches, mais combien il est beau de servir un aussi bon berger. Nous voulons prier. Seigneur, nous te demandons simplement, après t'avoir adoré, après nous être prosternés dans ta présence, après avoir considéré ta majesté, ton cœur de berger, nous voulons te demander de travailler en nous afin que nous soyons des brebis dociles, des brebis aimantes, des brebis engagées pour toi. Seigneur, veuille bénir tous les vrais bergers à qui tu as délégué ton autorité dans toutes les églises évangéliques que nous connaissons. Bénis-les dans leurs tâches difficiles, mais merci parce que c'est toi qui les as choisis, qui les as établis. Tu veux les équiper pour l'accomplissement de cette charge et tu veux vraiment faire d'eux les modèles de ton troupeau. Seigneur, accorde-nous non un esprit dominateur, tyrannique et orgueilleux, mais un esprit de serviteur, parce que c'est cet esprit-là avec lequel tu es venu sur la terre qui a triomphé de la puissance des ténèbres sur la croix et qui t'a établi pour l'éternité, roi des rois et seigneur des seigneurs. Aujourd'hui, l'humiliation, demain, la gloire. Aujourd'hui, les souffrances, demain, la présence merveilleuse, la tienne, pour l'éternité. Nous te bénissons, mets ton sceau sur tout ce que nous avons vécu durant cette matinée. Que cela nous accompagne, qu'avec Marie, nous repassions toutes ces choses dans notre cœur pour pouvoir en tirer le fruit que tu désires. Dans le nom du Seigneur Jésus, nous t'avons prié, Père, par le Saint-Esprit. Amen.